à voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme rencontre François Sureau. Ce soir, la maison de ma jeunesse.
Bonjour François Sureau.
Bonjour Marie-Laure Delorme.
Après avoir parlé de l'enfance dans une première partie d'À voix nue, on va parler aujourd'hui de votre jeunesse. Quand on est à l'aube de sa jeunesse, qu'on est bien né, diplômé, fortuné, intelligent, cultivé, est-ce qu'on ne se dit pas aussi à nous deux Paris ?
Ah bah pas du tout. Enfin en tout cas.
J'ai du mal à vous croire. Hein.
Ouais. Enfin ou plutôt si on se dit de manière bifide, c'est-à-dire que d'abord moi je me le suis dit, mais je me le suis dit par pas par un mouvement personnel, mais j'ai mis plusieurs années à me rendre compte que je me le suis dit essentiellement par par docilité. J'étais un parfait petit singe savant, quoi. Je savais exactement ce qu'on pouvait attendre de moi, et je savais exactement comment réussir dans ce qu'on attendait de moi.
Vous auriez pu être un mauvais élève.
Hein. Oh, j'aurais pu tout à fait être un mauvais élève. D'ailleurs, je l'étais. Enfin, de cette manière, je l'étais dans des tas de domaines. Par exemple, j'étais chez les jésuites où on insiste beaucoup sur les études scientifiques. J'étais très 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 mauvais en sciences. Mais enfin, comme j'étais très très bon en lettres, j'ai réussi à me sauver sur le fil, vous voyez. Voilà. Donc, je sais ce que c'est d'être d'une certaine manière, de n'être pas le premier de la classe. J'étais pas le premier de la classe, j'étais juste étonnamment bon en lettres et en philosophie. Est-ce Mais que pour tout le reste, j'étais vraiment très mauvais.
Est-ce que c'est curieux qu'on est fils de médecin, d'être mauvais en sciences?
Ben je pense que c'était une douleur. Mon père a essayé de m'apprendre les mathématiques, il a absolument pas réussi. Lui adorait ça, hein, quand il était en première, deuxième ou troisième année de médecine. Il avait fait deux licences annexes, une en paléontologie, parce qu'il adorait les œuvres de Piveteau, et l'autre en mathématiques. Et il était fou des mathématiques. Et mes enfants, ma fille aînée, qui est interne en médecine maintenant, était également très très bonne en mathématiques. Ça s'est transmis absolument partout, sauf à moi. Donc je sais ce que c'est que d'être pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais ce que c'est que de... Voilà. En revanche... c'est vrai qu'il y avait toute une partie où j'étais très apte au concours, mais pas à la compétition. Par exemple, assez bizarrement, la compétition avec les autres m'angoissait. Je voulais juste être le meilleur pour être tranquille, mais pour être tranquille avec moi-même. Pas du tout pour pousser les types à droite et à gauche pour occuper les premières places, pour être tranquille avec moi-même. Et j'ai réalisé ensuite que être tranquille avec moi-même, ça voulait simplement dire me faire valoir aux yeux de ma famille, aux yeux de mon père, aux yeux de ma mère, aux yeux de... Voilà. Mais que ça n'avait pas tellement à voir avec le monde extérieur. Donc mon idée était plutôt une idée assez solipsiste et qui ne correspondait pas tellement au « à nous deux Paris, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et puis j'ai eu très tôt, par ailleurs, comme un contrepoids, ce sentiment qui, très tôt, vers 13, 14, 15 ans, que quelque chose n'allait pas. Ni chez moi, ni dans le monde. Et je pense que au début du moins, la littérature, le goût que j'ai eu de la littérature, correspondait à cette idée que quelque chose n'allait pas, à une idée d'évasion. Il y a des gens qui lisent, par exemple, pour aller dans des mondes imaginaires. J'adorais ça, hein, je lisais Arsène Lupin, je lisais Alexandre Dumas, je lisais tout ça, j'ai continué à les aimer. Mais c'était pas ça qui me tentait. Ce qui me tentait, c'était de contempler la vie des écrivains. Une collection extraordinaire au Seuil, qui était les écrivains par eux-mêmes. Et je dévorais ces trucs-là dans l'idée de me dire voilà ce que je veux être. Comme si là-dedans, je pouvais trouver une issue à quelque chose de personnel qui me tourmentait. Tout ceci ne dispose pas naturellement à devenir un Rastignac. Vous voyez ?
Et est-ce que vous vous sentiez appartenir à votre génération ?
Oui et non, c'est-à-dire que je sais maintenant que j'ai appartenu à ma génération. Je ne le savais pas à l'époque, mais je sais maintenant que j'ai appartenu. Je suis né en 57 et au fond, ma génération, elle a connu deux traits extraordinaires que j'aime encore maintenant parce que ce sont des traits assez gais. Elle a connu les années 70. Je me souviens de Leonard Cohen dans L'île de Wight, de Simon et Garfunkel, de l'idée incroyable. C'est les années où j'ai connu l'Amérique. C'était des idées d'une époque d'incroyable liberté au fond, où tout semblait possible, où tout semblait s'effacer d'ailleurs, les classes sociales, tout, enfin devant une espèce d'optimisme incroyable. Il n'y avait pas de chômeurs, les gens fumaient des substances, écoutaient des trucs phénoménaux. Enfin, je garde un souvenir ébloui de 10 Years After au Madison Square Garden en 73. Vous voyez, des choses dont on n'a pas l'idée quand je vois la jeunesse de maintenant. Vous voyez, une espèce d'optimisme délirant. Alors, et puis après, il y a eu les années 80. Alors, les années 80, c'était pareil. C'était, à mes yeux, beaucoup plus pénible. La thune, la pub, les langoustes en tailleur, les talons aiguilles, les banques d'affaires, les OPA, etc. Mais du moins, il y avait une espèce d'énergie, de mouvement, de circulation, d'optimisme aussi. Alors, je suis vraiment un enfant de je suis vraiment un enfant de cette génération. Et quand je vois maintenant, d'ailleurs, le caractère absolument sinistre de la vie publique, eh bien, je me souviens avec ébahissement des années 70 et des années 80 comme d'une sorte de paradis perdu. Alors, c'est pas totalement vrai non plus, c'est une reconstitution, parce que dans les années 70 ou 80, Simon Leys, que j'adore, était voué aux gémonies par des dominicains maoïstes qui expliquaient qu'il fallait le pendre par les pieds comme agent de la CIA parce qu'il dénonçait les horreurs de la révolution culturelle. Donc c'était aussi des époques de plomb sur le plan intellectuel. Mais néanmoins, il y avait comme une sorte de fluide, comme une sorte de circulation d'énergie que je trouve assez extraordinaire. Sous ce rapport, je suis un enfant de ma génération. Maintenant, je le suis pas d'un autre côté, parce que je n'ai, de même que, ça vous paraît bizarre peut-être, mais de même que, bien qu'ayant eu une enfance très privilégiée, je n'ai pas le sentiment au sens de, j'ai le sentiment bien sûr, on n'est pas sur la lune, mais je n'ai pas le goût des classes sociales. Vous voyez ce que je veux dire, j'en ai pas le goût. C'est une chose dont je ne tiens pas compte. Et de la même manière, je ne tiens pas compte de la génération non plus. J'ai eu, et j'ai encore, des relations d'amitié extrêmement fortes avec des gens qui ont 30 ans de moins que moi et des gens qui ont 30 ans de plus que moi, parce que je sentais qu'il y avait entre eux et moi le désir commun, le désir, au fond, ce dont je vous parlais la dernière fois en parlant de la couleur, le désir de, non pas du même sens à la vie, puisque j'ai été lié avec des gens qui avaient des options politiques, par exemple, ou des options spirituelles, ou des options littéraires radicalement antagonistes aux miennes, mais le sens d'une même couleur, de donner à la vie une couleur vive, qui soit la même. Et ça, je l'ai trouvé chez des gens qui ont aujourd'hui 90 ans, et je le trouve encore chez des gens qui en ont aujourd'hui 25. Et je les reconnais au premier coup d'œil. Morand dit quelque part dans sa correspondance que les hommes et les femmes qui aiment le sexe se reconnaissent au premier coup d'œil. Je crois ça absolument exact. Et c'est vrai aussi pour la couleur de l'existence. Pour, vous voyez, les gens qui donnent à l'existence ou qui souhaitent lui donner la même couleur se reconnaissent tout de suite. Et pour moi, c'est beaucoup plus important que toutes les questions de génération.
Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit que vous sortiez de l'enfance ? Est-ce que ça, on le date ?
Non, enfin moi en tout cas non, peut-être que la mienne s'est prolongée assez tard, précisément parce que c'est dans mon enfance que je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, et que le sentiment que quelque chose n'allait pas s'est prolongé longtemps après, dans la jeunesse. J'ai eu le sentiment de rejoindre brutalement le monde des adultes, quand j'ai eu pour la première fois l'expérience de la guerre. J'étais vieux déjà, c'était en Yougoslavie en 92, et où j'ai eu l'impression que tout ce qui avait environné mon enfance, qui était le monde des livres, par exemple les livres d'histoire où on apprend l'attentat de Sarajevo, les mémoires, ou quand on lit Primo Levi, ou tout ce dont on avait été baigné, tout ce qu'on me racontait en famille, les générations qui m'avaient précédé, comment ils avaient connu le temps de la guerre, comment... Mais tout ceci appartenait à un univers assez virtuel, et tout compte fait assez littéraire. Et puis, à un moment, entre Sarajevo et Dubrovnik, en 92, j'ai vu ce que c'était que l'histoire se faisant. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'une question de livre, et que des choses extrêmement... comment dire, grave se passait, ça paraît d'une banalité effarante, mais qui se finissait au détour d'une rue par la présence d'un sniper qui tirait sur la route une famille après l'autre. Et ça, j'ai eu le sentiment tout d'un coup que, oui, de voir apparaître un monde réel.
Comment François Sureau, le littéraire que vous êtes, en vient-il à faire l'ENA ?
Il y a eu deux choses. D'abord, je crois que je l'ai fait par faiblesse. Parce que j'étais quand même, je suis entré à Sciences Po, j'étais parmi les meilleurs, tout le monde me disait faut faire ça, et donc j'ai fait ça pour parce que c'était convenable. Je dois dire, ça surprendra peut-être beaucoup que il n'y avait pas d'idée chez moi de. Par exemple, je me souviens que quand ma grand-mère que j'aimais bien était femme de professeur de médecine. Mère de professeur de médecine, et quand je lui ai dit que je voulais faire l'ENA, pour elle, c'était une sorte de dégradation sociale. Elle m'a demandé avec mépris si je voulais devenir rédacteur de ministère. Dans son esprit, avec un seul truc bien, c'était de devenir un grand patron et de rentrer à l'Académie de médecine et peut-être à l'Académie des sciences. Et ça, c'était quelque chose de considérable, vous voyez. Et que tout le reste, c'était une activité parasitaire de gens qui n'en valaient pas
la
peine.
Vous seriez d'accord avec elle, éventuellement ?
Au fond, maintenant, oui. Maintenant, oui, mais c'est dû à ce que j'ai vu de la dégradation de l'idéal de la fonction publique depuis 30 ans. Parce que j'y suis rentré donc par une espèce d'effet de facilité, vous voyez, de conformisme de ma part. Mais j'y suis rentré d'autant plus facilement que quand même, je m'en souviens maintenant avec presque nostalgie. C'était la fin des années 70 et les grands hauts fonctionnaires étaient des gens qui avaient redonné... Parce que, on s'en plaint, on explique que la technocratie, c'est affreux. Mais enfin, la République des avocats et des normaliens avait conduit la France à la défaite en 40. Et la génération de gens qui, de 45 à 75, a refait le pays. Alors, c'est vrai, il y avait de grands politiques, c'était le gaullisme, etc. Mais c'était une génération de gens extraordinaires. De l'ouvrier, Bloch Lenné,
Simon
Nora. C'était des gens qui, le dernier pour moi était Denoît de Saint-Marc, qui était vice-président du Conseil d'État, qui a été mon maître de conférence quand je suis rentré à l'ENA, qui étaient des gens qui étaient habités par une idée, mais monastique du service public et du sens de l'État. Une idée, alors, que je trouvais digne d'être suivie, qui, pour moi, correspondait non pas au pouvoir, mais au service, qui avait quelque chose d'assez extraordinaire et qui égalisait, au fond, toutes les conditions sociales des hauts fonctionnaires dans ce désir de servir la collectivité, l'intérêt général. C'était impressionnant. On voit pas du tout. Maintenant, on s'en souvient pas du tout, parce qu'au fond, on a affaire à une technocratie de moyenne gamme au service d'une espèce d'idée ordo-libérale et qui, en fait, travaille en permanence à sa propre destruction. Et quand elle ne travaille pas à sa propre destruction, se venge de son inefficacité sur le corps social en essayant de l'encadrer dans des règlements millimétriques. Mais c'était pas du tout ça à l'époque. C'était pas du tout ça. Et donc il y avait un élan, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. Donc j'y suis rentré par conformisme, j'y suis rentré à cause de gens profondément estimables, et puis quand j'y suis rentré, je me suis rendu compte que c'était le début de la fin. Donc j'en suis sorti.
Vous avez 23 ans, vous êtes au Conseil d'État.
Oui.
Est-ce que ça, c'est une bonne période ?
C'est une période étrange. D'abord, c'est une période c'est une bonne période parce que c'est aussi un monde que j'ai aimé profondément. C'est une chose qui n'existe pas ailleurs dans la vie, vous savez. On rentre au Conseil d'État, on a 23 ans, on n'y connaît rien quand même, on est une espèce de puceau absolu. Et puis vous siégez à côté de Bernard Tricot, de Burin Desrosiers, qui a été le secrétaire général du général de Gaulle, et vous avez la même voix que lui aux délibérations. Et vous êtes traité avec une immense courtoisie, avec un très grand respect. J'ai traversé plein de milieux ensuite. Je n'ai jamais vu autant de respect pour les jeunes qu'au Conseil d'État quand j'y suis rentré. Jamais. Il n'y avait pas de bureau. On travaillait tous ensemble sur des grandes tables et une immense courtoisie était de règle. Le
Donc
seul.
C'est une maison que vous aimez.
Ah oui, c'est une maison que j'aime. Alors c'est une maison. D'ailleurs, je l'aime d'autant plus que dans les années récentes, quand la folie liberticide s'est emparée de la classe politique, au fond, le Conseil d'État a été, avec le Conseil constitutionnel, l'une des dernières, alors avec toutes les prudences et les atermoiements de ce genre d'endroit, mais a été l'un des derniers endroits civilisés qui m'était donné de fréquenter. Un endroit où le président de la section de l'intérieur, de temps en temps, lève le sourcil en expliquant que c'est peut-être pas la peine de vouloir recréer le camp de concentration de Saint-Maurice-l'Ardoise. Alors que la quasi-totalité de la classe politique de droite et de gauche, et surtout de gauche, il consent immédiatement au motif qu'il s'est passé un attentat ici ou là. Donc ça a été pour moi, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je considère encore la maison de ma jeunesse avec une espèce de gratitude et de désir qu'elle reste fidèle à elle-même. Vous voyez, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi. Donc c'était pas ridicule, ni sur le plan de l'esprit, ni sur le plan de la manière d'être entre les personnes. En même temps, d'un autre côté, ce n'était pas pour moi des années heureuses parce que je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça. Et donc après avoir beaucoup travaillé pour rentrer là-dedans, après avoir été ébloui de rentrer là-dedans, je me suis rendu compte que ça n'était pas pour moi.
Vous êtes un lecteur de Pascal. Auriez-vous pu, comme Pascal dans sa jeunesse, vous perdre à un moment donné dans les distractions, dans les mondanités surtout ?
Ça dépend de ce qu'on appelle le monde. J'ai été préservé par mon enfance privilégiée des séductions du monde. C'est-à-dire que je n'ai jamais passé ma vie à dîner en ville. Et par exemple, j'ai toujours eu horreur...
Parce que sans vous connaître, on vous imagine mondain.
Oui, ben c'est une erreur. Mais c'est une erreur parce que je suis très mal à l'aise dans le small talk. Que savoir si la tante machin a épousé le cousin truc me lasse assez vite au bout d'un certain temps.
En cela, vous n'êtes pas de votre milieu.
Je ne sais pas, parce qu'il y a des gens de mon milieu qui sont tout à fait comparables à moi. Je connais des gens qui ne sont pas de mon milieu et qui, en revanche, adorent le fait de se demander s'ils ne pourront pas appartenir un jour au monde où le cousin truc épouse la cousine tartemolle. Donc, ça c'est... La luxure, le snobisme, la gourmandise, l'intelligence n'ont pas égard aux classes sociales. C'est comme les subtils et les crustacés de Gide. Vous avez les deux catégories, ce quart du haut en bas de l'échelle sociale. Donc j'ai pas eu de tentation mondaine au sens de perdre mon temps. D'ailleurs, en plus, j'ai toujours été convaincu très très tôt. Ça c'est au fond, j'en ai souffert parfois, mais ça a été une chance, mais de la rapidité de l'écoulement du temps. J'ai toujours pensé que le temps était compté. J'ai toujours essayé de faire des choses comme si ça allait se finir assez vite. Donc j'ai toujours été très 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 convaincu de l'écoulement du temps. Et je suis prêt à passer 2 heures dans une conversation en tête à tête avec quelqu'un, mais pas dans un endroit où il y a 15 personnes qui racontent des choses indifférentes. Et je l'ai jamais été. En revanche, ce que Pascal appelle le monde ne correspond pas strictement à l'univers mondain au sens de Proust. Ce que Pascal appelle le monde, c'est toutes sortes de séductions de la vie comme elle va. Et là, oui, j'aurais pu m'y perdre. Je dois dire que quand je vous parlais du crayonnage, oui, je suis vraiment allé de droite et de gauche. Voilà, Kundera.
Vous n'avez pas eu de tentation mondaine ? Est-ce que vous avez eu une tentation religieuse ? Est-ce que vous auriez pu devenir un religieux ? Est-ce que vous avez déjà séjourné dans un monastère ?
Oui, j'ai séjourné quand j'étais jeune dans une abbaye que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sainte-Anne de Kergonan, dans le Finistère, une filiale de l'abbaye bénédictine de Solesmes.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous y recherchiez ?
Je crois que j'y recherchais deux choses. Je crois qu'on recherche deux choses dans la vie monastique. Je crois qu'il y a un débat, vous savez, sur le moine, ce que c'est que moine de monos grec, qui veut dire soit unifié, soit unique, soit seul. Donc je crois que j'y cherchais une forme d'unité personnelle. Dans un moment où je me faisais l'effet à moi-même d'être extraordinairement dispersé sur le plan intérieur. Et je crois que j'y cherchais aussi une vérité. Et d'ailleurs, j'ai assez vite renoncé à l'idée de devenir moine, mais il m'en est resté, et j'y retourne encore maintenant dans cette abbaye, il m'en est resté cette idée que nous passons tout de même notre vie, Pascal le dit très bien d'ailleurs, à se forger d'étranges idoles de nous-mêmes pour pouvoir les adorer, à se fabriquer des statues en bois et en papier peint, que nous parons de tas de vertus ou de tas de défauts qui le plus souvent sont imaginaires, ce qui nous dispense de nous mettre dans l'état de réceptivité qui nous permettrait peut-être de savoir enfin qui nous sommes. Et en fait, ce que je crois que j'ai aimé dans la vie monastique, c'est la vie d'homme entièrement vouée à ça, c'est-à-dire à cette unité et... dans l'humilité, par humilité, il ne s'agit pas de fausse modestie, il s'agit de renoncer aux illusions qu'on cultive sur soi-même, et dans l'humilité, le fait de savoir enfin, à la fin, qui on est. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai pensée depuis que je suis très jeune, c'est que on peut s'amuser avec la vie. Un moine bénédictin que j'aime beaucoup, qui était Basil Hume, l'archevêque de Westminster, disait « À la fin, le secret de la vie est simple, il faut prendre les autres au sérieux, il faut prendre Dieu au sérieux, il ne faut pas se prendre soi-même trop au sérieux. » Je suis assez d'accord avec ça, à condition de penser au deuxième terme. Prendre la vie au sérieux, ne pas la traverser en touriste. Et au fond, ça ne relève pas chez moi de l'ordre du devoir. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas d'autre manière pour moi de traverser la vie, sauf en essayant de la prendre au sérieux autant qu'il était possible. La manière monastique de la prendre au sérieux m'est toujours apparue absolument estimable.
Vous vous êtes engagé un temps dans la Légion étrangère en tant que réserviste. Qu'est-ce que vous recherchiez cette fois-ci? Et est-ce que vous avez le goût du collectif, du groupe?
Alors c'est assez curieux parce que je n'aime pas l'ordre. C'est pour ça que vous avez au mur une photo de l'un de mes héros de jeunesse, qui était Laurence d'Arabie précisément, qui a cherché dans le collectif une solution. Je n'aime pas l'ordre, enfin je veux dire, je n'aime pas l'ordre. C'est une différence avec Pascal, entre guillemets, enfin encore que, enfin, ça paraît un peu bizarre de dire une différence avec Pascal, entendons-nous. Pascal accepte l'ordre parce qu'il pense qu'il y a plus de virtualité d'injustice dans le désordre. Et d'une certaine manière, est attaché à l'espèce de paix de l'ordre, tout en envoyant le caractère absolument arbitraire, comme Montaigne d'ailleurs. Ils envoient tous les deux le caractère absolument arbitraire. Moi, j'en ai toujours vu le caractère absolument arbitraire, et j'avoue que ce caractère absolument arbitraire génère en moi un sentiment de révolte à chaque fois que je suis affronté à des situations d'injustice particulière, qui ne me concernent pas moi, parce que je vis une vie très privilégiée, naturellement, mais qui concernent souvent les autres. Donc, je n'ai pas de facilité à accepter l'ordre. En revanche, je parle de l'ordre social en général, en revanche, les micro-ordres, comme celui de la Légion étrangère, je les ai beaucoup aimés. Et j'ai beaucoup aimé l'ordre de la Légion étrangère pour des tas de raisons. D'abord parce que j'ai toujours été sensible au point ultime, c'est-à-dire à ce que deviennent les hommes, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils révèlent d'eux-mêmes face à la difficulté, au courage, au risque physique. Voilà, c'est une chose... Vous voyez, les épreuves testent comme ça. C'est une chose qui m'a toujours... Et en fait, ce que j'ai cherché, je crois, c'est à connaître ou à partager la vie des hommes, en tout cas à partager la vie des hommes, parce que j'ai pas mené une vie de baroudeur exceptionnelle, mais à partager la vie des hommes qui avaient été affrontés à des circonstances assez exceptionnelles, à des circonstances assez dures, dans la mesure où ma vie personnelle avait été privilégiée avant, je crois que j'ai recherché ça. Et j'y ai été incité par le fait qu'en dehors de mon père, l'homme qui m'a le plus frappé était mon parrain. Mon parrain était celui qui avait choisi comme parrain pour moi, était un interne des hôpitaux de Paris, s'appelait Michel Klein, qui était un personnage absolument extraordinaire. On disait de lui, c'était un médecin comme les autres, vous voyez. On disait de lui qu'il avait fait une très belle guerre. Vous savez, dans les familles, on dit il a fait une très belle guerre. Et puis un jour, il est malade, il est sur ses fins, il a un cancer, et sa femme me dit qu'il voudrait être admis aux Invalides pour finir sa vie avec ses camarades. Alors moi, ça m'étonne beaucoup, parce que pour moi, ses camarades, c'était des médecins comme lui, pas du tout... Et comme je connaissais du monde, j'ai appelé un général et je dis au général, mon général, mon parrain voudrait finir sa vie aux Invalides, est-ce que vous croyez que c'est possible? Il m'éclate de rire au nez, il me dit, mais tout le monde a fait une belle guerre, enfin je vais quand même regarder son dossier. Et puis une heure après, il m'a appelé, il m'a dit, mais est-ce que vous savez qui c'est? Je dis, oui, c'est mon parrain, on me dit qu'il a fait une très belle guerre. Il me dit, voilà, il a seulement fait une très belle guerre, il a 3 ou 4 palmes, c'est énorme, des citations à l'ordre de l'armée, entre 43 et 45, un véritable héros. Et les deux dernières citations sont signées, la première du maréchal Juin, la deuxième du général de Gaulle, et lui attribue la percée du 8e tirailleur marocain au Monte Cassino. Et donc, non seulement il va finir sa vie aux Invalides, mais je vais envoyer ma voiture le chercher tout de suite. Voilà. Et puis après, c'est une génération qui vous surplombe. Et puis après, le grand chancelier de la Légion d'honneur m'appelle et me dit j'ai observé qu'il était juste officier de la Légion d'honneur, il devrait être grand croix, est-ce que vous ne croyez pas qu'on peut lui donner la cravate? Je dis écoutez, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Il me dit attendez, avec les vrais soldats, il faut lui demander si ça lui fera plaisir ou pas, parce que peut-être qu'il s'en fout complètement. Voilà. Alors je l'appelle et je lui dis ça vous ferait plaisir d'avoir la cravate? Et il me dit à l'âge que j'ai, ça m'est complètement égal, mais ça me ferait plaisir à cause de mes deux frères. Je dis je savais pas que vous aviez deux frères. Il me dit oui, il y en a un qui est mort devant Colmar et l'autre qui est mort devant Koufra. Oui. C'est ça, c'est cette génération qui était avant et qui surplombait. Je pense que ça a eu un effet. Il y a un moment où je me suis dit, un homme, fait de tous les hommes, qui vaut tous et que vaut n'importe qui, doit avoir connu quelque chose de ça. Et donc voilà, j'ai signé pour la Légion étrangère dans la réserve opérationnelle et j'ai connu là un monde extraordinaire. Il faut savoir, mon arrière-grand-père, celui de la partie suisse, celui de la partie protestante, en fait à l'époque c'était dur de redevenir français. Et en fait il est redevenu français parce qu'il a servi 20 ans à la Légion, il avait fait la première campagne du Tonkin, etc. Donc il y avait un fil légionnaire qui courait dans la famille. Et donc, j'ai fait ça, et pendant près de 15 ans, j'ai fait pas mal d'opérations extérieures. Et c'est un univers que j'ai beaucoup aimé pour deux ou trois raisons différentes. La première, c'est un univers où rien ne compte sauf l'homme tel qu'il est, l'homme nu, comme dit Simenon. Ni la classe sociale, ni la couleur, ni la religion, dans un univers incroyablement normé. Parce que ça aussi, c'est une différence. Là où je me sens vraiment de ma génération, c'est que dans ma génération, il serait venu à l'idée de personne de vous demander si vous étiez catholique, musulman, juif, melkite, breton, normand ou basque. Tout le monde s'en tamponnait le coquillard. Alors que maintenant, cette question de l'origine est une question absolument permanente, présente dans les conversations, présent tout le temps, ça n'existait pas. Et pour moi, la Légion, c'est un univers où ça n'existe pas, comme dans ma jeunesse, ça n'existe pas. On se demande pas, voilà, on se demande juste ce que vaut un homme, voilà. Et puis c'est le dernier endroit où se faire oublier. Ça, c'est quand même merveilleux, l'identité déclarée, dans un univers où on est suivi par tout le monde, où vous pouvez pas faire une connerie sans que ça soit 20 ans après visible dans votre casier judiciaire ou sur Internet. Des types qui changent de nom, les hommes sans nom, comme on disait. Vous voyez. Ce côté, vous parliez de monastère, hein. Un légionnaire célèbre disait c'est le monastère des incroyants. C'est exactement ça. Et j'ai été très très attaché et je continue d'être très attaché à ce monde-là à cause de ça.
La politique n'est pas dérisoire par rapport à tout ça. On parle de votre jeunesse. Généralement, quand on est jeune, on est politisé. Vous, j'ai l'impression que ça n'a pas été essentiel, la politique, durant votre jeunesse.
Non, pas du tout. Pas du tout. Et je crois que ça l'aurait peut-être été si j'étais né... Vous voyez, si j'avais eu 20 ans en 45, 20 ans en 58. Si vous voulez, de mon temps déjà... de mon temps déjà, j'ai l'impression d'être un grand vieillard à barbe. De mon temps déjà, j'ai eu l'impression qu'il ne se jouait pas là-dedans de choses essentielles. De quoi s'agissait-il en réalité? D'un bout de construction européenne, des débuts de la mondialisation, d'une libéralisation tempérée. Il n'y avait pas de quoi se mobiliser, vous voyez ce que je veux dire? Profondément, pour moi, il n'y avait pas de quoi se motiver. Pas comme en 45, quand il faut restaurer la France, en 58, quand il faut restaurer l'État et décoloniser. Il n'y avait pas vraiment de quoi se... Et il me semblait que tous les gens qui s'y intéressaient se montaient le bourrichon, vous voyez? Les gars de droite qui imaginaient que si Mitterrand arrivait au pouvoir, ça serait la mort et l'enfer. Et les gars de gauche qui expliqueraient que ça serait le monde nouveau. Étant quand même assez réaliste, j'étais absolument incapable de croire à leur billevesée, d'un côté comme de l'autre. Et d'ailleurs, si je puis dire, la suite m'a donné raison, car il ne s'est rien passé. Enfin, je veux dire, ça fait 40 ans qu'il ne se passe rien. Rien qui puisse motiver un engagement politique positif. En revanche, au bout d'un certain temps, j'ai fini par avoir un engagement politique négatif. C'est-à-dire la volonté, au moins, de ne pas voir disparaître ce à quoi je m'étais attaché dans ma jeunesse. Une certaine ouverture, une certaine tolérance à l'égard de l'étranger, à l'égard des demandeurs d'asile, une certaine liberté, un certain sens de la liberté politique. Tout ce qui était autrefois l'héritage de la gauche libérale, Badinter, Bredin, même Mitterrand, et qui a complètement disparu sous mes yeux ébahis. Voilà. Ça a motivé, dans un deuxième temps, des prises de position politique que j'ai prises, malgré moi, dans une optique défensive, et non pas dans l'idée que j'allais collaborer à la création d'un ordre politique nouveau, parce que je trouvais ça absolument illusoire.
Merci François Sureau, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec François Sureau. À voix nue, réalisation Marie Placet, prise de son Stéphane Beaufis, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.